Morning Edition from NPR News.
France Inter. Le 18.
Et ce soir, comment faut-il regarder Israël ou le Portugal qui laissent filer leur virus? Sommes-nous tous trop optimistes dans une fin de pandémie dont certains parlent déjà sur un virus endémique même? Que dire une fois de plus de tous les pays laissés pour compte pour l'instant? C'est avec l'une des directrices de l'OMS que l'on discute dans un tout petit instant. Le bruit du monde ce soir est en Inde où Sébastien Farsi nous amènera dans un lieu au sud de New Delhi où on écoute de la musique entre hindous et musulmans sans heurts et c'est devenu rare. Le bruit du monde, la suite sous les radars. Sébastien Legénie a trouvé un rat, récompensé pour sa bravoure au Cambodge, une danse du ventre anodine qui vire au drame en Égypte et le pied d'Artémis. 18h50, c'est le cinéma en VO avec Alexis de Meyer et un documentaire Little Palestine qui raconte le siège du camp de Yarmouk, c'est à Damas. 18h55, le monde d'après de Jean-Marc Four qui va se mettre dans la peau de Vladimir Poutine face à l'OTAN. Le monde est vaste et on n'a qu'une heure. Bonsoir.
Fabienne Saint-Ès. Un jour dans le monde.
Bonsoir Sylvie Briand.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Vous êtes directrice à l'OMS en charge de la gestion des risques infectieux notamment. Merci beaucoup. C'est toujours important d'avoir l'avis de l'OMS parce que vous avez, vous, une vision d'ensemble évidemment qui n'est pas forcément la nôtre. Je voudrais citer un passage, Sylvie Briand, de la conférence de presse qui a eu lieu cet après-midi et d'un médecin qui dit c'est pas le moment d'abandonner, c'est pas le moment de baisser la garde, c'est pas le moment de dire que c'est un virus qui est le bienvenu. Aucun virus n'est le bienvenu. Est-ce que ça veut dire que vous êtes inquiet à l'OMS des stratégies qu'on voit pointer, c'est le cas d'Israël, c'est le cas du Portugal, c'est le cas d'autres, et de stratégies qui disent on laisse filer Omicron puisqu'il n'est pas dangereux.
Alors, en fait, Omicron est effectivement beaucoup moins dangereux que Delta. Donc ça, c'est vraiment la bonne nouvelle. Mais il n'en reste pas moins qu'il y a quand même certaines personnes fragiles ou des personnes qui vont avoir une infection grave et qui vont être hospitalisées. Il y a quand même des gens qui, en ce moment, sont à l'hôpital en soins intensifs et à cause d'Omicron. Mmh. Donc il faut
y compris des gens vaccinés. Y compris des gens vaccinés. Sylvie Briand, avec un schéma vaccinal complet?
Alors, il y a certaines personnes qui sont vaccinées parce que, bon, souvent, vous savez, on a vacciné les personnes à risque parce qu'elles avaient effectivement un système immunitaire déjà très faible. Mm-hmm. Donc, même avec plusieurs doses de vaccin, bon, leur production d'anticorps peut être limitée. Et donc, ils restent quand même, même s'ils sont mieux protégés que s'ils n'avaient pas de vaccin, la protection reste quand même insuffisante face à des gens qui ont un système immunitaire très, très déficient. Mais la plupart des gens qui ont été vaccinés, quand même, bénéficient de cette protection du vaccin et on voit bien que le nombre de maladies graves est beaucoup moins important que dans les vagues précédentes.
La raison pour laquelle ces pays laissent filer, c'est aussi, et la raison pour laquelle on se pose nous la question en France, je ne peux pas imaginer le contraire, c'est aussi que on a un mal fou à le contenir. En fait, il va beaucoup trop vite. Est-ce qu'on peut dire vraiment qu'on peut contenir ce variant Omicron?
Alors en fait, ce qu'on peut dire déjà, c'est qu'on pourra pas l'éliminer tel qu'il est, parce que la transmission est effectivement très importante. C'est un virus qui se transmet très vite. La durée d'incubation semble un peu plus courte que pour les autres variants en plus. Donc vraiment, c'est très compliqué. Mais on pourra pas l'éliminer. On peut probablement ralentir un peu la transmission. Et puis ce qu'il faut faire surtout, c'est protéger les gens les plus à risque d'être infectés avec des gestes barrières. Et puis évidemment, la vaccination quand elle est disponible. Mm-hmm.
On l'a vu décroître assez vite en fait et assez curieusement hein, en Afrique du Sud. Alors pour le coup, c'est peut-être une question météorologique, mais on le voit décroître aussi au Royaume-Uni qui a été le pays le plus touché. Donc c'est pour ça qu'on les regarde avec beaucoup d'intérêt. Est-ce qu'on sait si c'est seulement justement une question de redout ou si à nouveau il faut mettre sur le tapis cette histoire d'immunité collective? L'immunité collective, qu'est-ce qu'on en dit chez vous à l'OMS?
Oui, alors c'est un concept qui est un peu compliqué en fait avec la Covid-19 parce que avec l'émergence des variants, si vous voulez, les populations ont pu acquérir une immunité collective, mais en fait quand un nouveau variant arrive, en fait, il remet en cause un petit peu cette immunité. Mais ce qu'on voit quand même, c'est que l'immunité de base, disons que la plupart des gens ont rencontré le virus ou alors ont été vaccinés, et donc on a quand même une large proportion de la population qui a les moyens de se défendre.
on entend dire, et alors, encore une fois, vous allez nous dire si c'est une espèce de méthode Coué, peut-être, de votre point de vue, ou si c'est aussi la lassitude qui monte, mais on entend dire des choses de plus en plus positives qui disent que grâce à ce variant, j'y mets évidemment des guillemets, on va sortir de la phase pandémique. C'est même ce que dit l'Agence européenne des médicaments, que le Covid va devenir une maladie endémique, en fait, et au fond, comme la grippe. Est-ce que là aussi, vous essayez, vous, de freiner des cas de fer, ou est-ce que oui, c'est là qu'on, c'est dans cette direction que nous allons?
Non, je pense que d'abord, c'est très difficile de prévenir l'avenir. Oui. Bon, nous, on voit à peu près trois scénarios. Le premier scénario, c'est effectivement que le virus devient endémique, un peu comme les coronavirus endémiques qu'on a, et ça provoque des rhumes chaque année. Mm-hmm. Et puis, voilà, mais il n'y a pas de conséquences majeures sur la santé. L'autre scénario, c'est que ça devient effectivement comme une sorte de grippe, avec des épidémies saisonnières, avec des morts quand même, quand, mm-hmm, dans les groupes à risque en particulier. Mais si on a des vaccins, des traitements, on peut protéger ces gens-là. Et le dernier scénario, c'est un peu le scénario catastrophe que évidemment personne n'a envie de voir venir, mais c'est l'émergence d'un variant qui serait de nouveau non seulement transmissible mais aussi virulent. Bon, évidemment, on essaye de planifier tous les scénarios possibles, mmh, mais on espère que ça sera évidemment le scénario le plus bénin, le plus positif qui va se produire. On n'en est pas encore là, puisqu'il, mmh, y a encore Delta qui circule, il y a encore Omicron qui fait quand même des dégâts chez les gens qui n'ont aucune immunité. Donc il y a encore quelques semaines un peu difficiles probablement à passer.
Et on est d'accord, et peut-être qu'il faut le rappeler aux gens, si on arrive au fond à une forme d'immunité collective qui fait qu'on sera dans un virus endémique, ça n'empêche pas un autre variant de s'incruster, de s'immiscer, Sylvie Briand.
Non, parce qu'en fait, c'est un virus d'origine animale initialement, et on a vu depuis le début de cette pandémie qu'il y a des possibilités que le virus passe chez l'animal et repasse ensuite chez l'homme avec des variations. Et donc, c'est ces variants en fait qui sont à l'interface de l'homme et de l'animal qui, mmh, sont probablement dangereux, et donc on s'en méfie, on essaye de les prévenir, mais c'est très difficile.
Vous avez dit à l'OMS un moment dans un moment d'agacement, on ne s'en sortira pas à grand coup de dose de rappel. C'était un peu notre tentation occidentale, en fait, de repiquer de toute façon, puisque les doses, nous les avions. Est-ce que vous avez eu le sentiment, là, est-ce que c'était une forme d'agacement chez vous? Est-ce que vous avez vraiment eu le sentiment que, en effet, nous étions dans notre propre égoïsme, et que ça, pour le coup, c'est ce qui n'a pas changé depuis l'arrivée des vaccins au milieu de cette pandémie?
Ah non, je crois pas que c'était une forme d'agacement. C'est que nous avons un groupe d'experts qui s'est réuni pour regarder si on devait changer la composition du vaccin. Parce que pour l'instant, les vaccins ont été faits d'après la souche ancestrale, la première qui est arrivée. Et donc depuis, on a eu plusieurs variants. À chaque fois, on a testé ces vaccins par rapport à ces variants pour voir s'ils étaient toujours efficaces. Ils sont toujours efficaces pour prévenir les maladies graves. Mais comme on le voit avec la flambée d'Omicron, ce n'est pas très efficace pour prévenir la transmission. Mmh. Et donc la question, c'est de savoir, est-ce que si on changeait un petit peu les antigènes ou les morceaux d'ARN messager qui sont dans le vaccin, est-ce qu'on n'obtiendrait pas un meilleur résultat en termes, bon, de prévention de maladies graves certainement, mais surtout en termes de transmission? Et donc c'est un peu ça la discussion qui est sur la table, et on préférerait évidemment que la science fasse des progrès et nous propose des vaccins encore plus efficaces, plutôt que de réutiliser constamment les mêmes vaccins de plus en plus fréquemment, et ça serait pas une politique qui serait de toute façon pérenne et facile à mener au long cours.
Il devient inopérant, un vaccin, quand il est utilisé trop fréquemment ou pas? Est-ce qu'il peut devenir inopérant?
Non, c'est pas ça.
Si
mais
c'est le même.
Non, mais bon, disons que déjà ça a un coût très certain, et puis c'est compliqué pour les gens aussi de se faire vacciner tout le temps. Et puis on sait pas très bien en fait si ça vraiment va avoir un bénéfice, enfin par rapport à l'investissement, si le bénéfice, mm-hmm, sera comme ça. Et on peut aussi augmenter les effets secondaires liés au vaccin à force de répéter les doses. Donc, mm-hmm, pour toutes ces raisons, l'attitude probablement la plus raisonnable, c'est plutôt d'essayer de se demander comment on pourrait mieux utiliser les vaccins qu'on a de façon à obtenir au moins la prévention des maladies graves.
Et de se dire là, Sylvie Briand, que en effet, l'histoire de la quatrième dose, elle n'est plus du tout sur la table. Encore une fois, puisque pour les gens triple vaccinés, Omicron est nettement moins dangereux, est-ce qu'on se dit, ben du coup, on enlève complètement l'idée de la quatrième dose de la table, en tout cas pour l'instant?
Alors, je pense que là, on est encore en train d'étudier un peu les les effets, si vous voulez, il y a des études qui sont encore en cours, parce que dans certains pays, il y a quand même Delta qui continue à circuler. Mmh. On voit quand même que l'immunité diminue au bout d'un certain temps. Donc, par exemple, chez les personnes qui sont sous immunosuppresseurs ou qui ont des conditions, des comorbidités graves, la quatrième dose peut faire du sens pour leur ajouter un petit peu de protection. Mais la quatrième dose pour l'entièreté de la population, non, je crois pas que ça soit pour l'instant ce qui est discuté.
Vous dites aussi à l'OMS, et c'est dans la droite ligne de ce que vous venez de dire, effectivement, qu'il faut que les vaccins dans le meilleur des cas puissent être adaptés et adaptables à cette forme de variant, mais aussi qu'ils préviennent mieux la transmission. On est d'accord, le vaccin a évidemment sauvé des vies. La transmission, ça reste quand même, Sylvie Briand, le talon d'Achille de ce vaccin.
Ben pour l'instant, c'est pas que ce vaccin. Hein. Si vous voulez, on a un petit peu la même chose avec les vaccins grippe. Donc, ce vaccin évidemment réduit le nombre de formes symptomatiques. Donc, les gens vont peut-être porter le virus, mais n'auront pas de symptômes. Donc, forcément, ça a un effet indirect sur la transmission, puisque les gens qui transmettent le plus la maladie sont quand même les gens qui ont des symptômes, qui toussent, etc. Donc, ça a un effet indirect sur la transmission, mais ça n'a pas l'effet qu'on avait espéré. Par exemple, quand commencer à distribuer les vaccins, on espérait que, évidemment, on arriverait presque à éliminer le virus, au moins que la transmission serait tellement basse qu'à la fin on viendrait complètement à bout de cette maladie. C'est pas exactement ce qui se passe, mais quand même on est beaucoup mieux que ce qu'on était, la situation qu'on avait en 2020, ça c'est clair.
Vous avez à plusieurs reprises pointé du doigt le fait que le partage de ce vaccin ne se faisait pas comme il devrait se faire. Il y a encore des zones entières qui sont des zones non vaccinées parce que ce sont des zones qui n'ont absolument pas accès au vaccin. Est-ce que vous diriez que précisément parce qu'il reste des zones de ce type-là qui sont de très grosses zones, de toute façon on ne sera pas sorti d'affaire? Ce que je veux dire, c'est qu'est-ce qu'un variant peut à nouveau être créé dans des zones comme ça qui viendront ensuite chez nous? Est-ce que tant que, c'est aussi l'un des choses qu'on a beaucoup entendu, tant que 90% de l'ensemble de la population mondiale n'est pas vaccinée, on ne s'en sortira jamais? Ou est-ce que si nous le sommes, il peut y avoir un cercle vertueux?
Disons que l'émergence de nouveaux variants, c'est quelque chose d'assez imprévisible et on comprend pas encore tellement comment ça se passe. Mais ce qu'on sait, c'est que comme le vaccin protège contre les formes de graves de la maladie, c'est très important que dans les pays en développement, les gens qui sont à risque aient accès à ces vaccins. Parce que quand je pense aux gens à risque, c'est les gens qui ont des comorbidités, mais c'est aussi les personnels de santé qui sont extrêmement exposés. Et donc dans ces pays-là, si par exemple les médecins, les infirmières ne sont pas vaccinées, et si vous perdez un médecin, par exemple, un médecin peut servir par exemple 10 000 l'accès aux soins pour 10 000 personnes. Donc ça veut dire que dans des pays qui sont déjà très très fragiles, les gens auront encore moins accès aux soins, et c'est pas seulement pour le Covid, mais ça veut dire que toutes les autres maladies ne pourront pas être traitées. Donc l'impact de cette épidémie sur des pays déjà fragilisés va être très très important, et je pense que c'est notre devoir collectif de minimiser ça. On peut pas laisser comme ça les gens mourir alors qu'on a ce qu'il faut pour les empêcher de mourir.
C'est ça votre plus grande source d'inquiétude aujourd'hui, y compris pour les mois qui viennent, dans ce qui n'est pas du tout encore la fin d'une pandémie?
Alors, notre principale source d'inquiétude, c'est qu'effectivement, les gens croient que tout est fini, et donc on arrête tout.
Parce que pardonnez-moi de vous interrompre, j'allais vous citer, vous voyez, en conclusion, je crois que ce sont les Danois qui ont dit « dans 15 jours, c'est fini ». Il y a même la Suisse qui dit « c'est le début de la fin de la pandémie », la Norvège dit la même chose, ça c'est une petite voix qui vient partout, et forcément on adore l'entendre, cette petite voix-là.
Mais bien sûr, c'est tout à fait compréhensible, tout le monde en a assez, hein. Et puis, et ce qui est sûr, c'est que la situation est quand même en voie d'amélioration en général. Mais je pense que tant que la saison hivernale continue, le froid, qu'on passe beaucoup de temps dans les maisons et dans des lieux clos, je pense que c'est important quand même de garder les gestes barrières parce que ça protège. Et puis, ça évitera aussi qu'il y ait trop de gens qui s'infectent et qui viennent engorger les services de santé. Les services de santé sont fragilisés quand même après 2 ans de pandémie. Il y a beaucoup de soignants qui sont fatigués, qui sont malades même pour certains. Donc c'est très important que collectivement on protège nos systèmes de santé et qu'on leur permette aussi d'assurer les soins pour les autres malades qui ne sont pas malades du Covid, mais les infarctus, les AVC et tout le reste qui reste important.
Ne nous emballons pas, nous dit Sylvie Briand, directrice à l'OMS en charge de la gestion des risques infectieux. Merci beaucoup.
Le 18-20, Fabienne Saint-Esse sur France Inter.
La suite ce soir, ça se passe en Inde, dans l'un des derniers repères à New Delhi où hindous et musulmans peuvent vivre côte à côte, écoutent de la musique même ensemble, vous allez voir que c'est plutôt rare. Et pour aller jusqu'à 19h dans l'ordre de l'apparition, sous les radars, Sébastien Logénie.
Les frises du Parthénon, toujours au cœur d'une bataille diplomatique, l'Italie vient de faire un geste en direction d'Athènes, mais pas l'Angleterre qui détient toujours l'essentiel des marbres.
Voilà, en ordre d'apparition, c'est comme ça qu'on dit. Le cinéma en VO, Alexis Demeyer, bonsoir Alexis.
Bonsoir, je vous emmène à Yarmouk, dans la banlieue de Damas, un quartier peuplé de réfugiés palestinien, un quartier surnommé Little Palestine, et c'est aussi le titre d'un documentaire poignant en salle depuis ce matin.
Le Monde d'après, Jean-Marc Four, bonsoir.
Bonsoir à tous, ce soir je me prénomme Vladimir, j'entre dans la tête de Poutine et je vais essayer à rebrousse-poil de vous expliquer le point de vue russe sur l'OTAN et sur l'Ukraine.
Allez, à tout de suite, ne partez pas trop loin tout le monde, le tour de la planète continue, il passe par Los Angeles, Californie, les Hills, Steam Engine sur France Inter. Du monde. Ce soir est en Inde où on ne le découvre pas. La politique du parti nationaliste hindou tend à diviser de plus en plus hindous et musulmans. Mais un lieu demeure le symbole du mélange des différentes religions et cultures, le mausolée musulman de Nizamuddin. C'est dans le sud de New Delhi. Il rassemble tous les soirs des indiens de toutes les confessions pour écouter de la musique traditionnelle soufie. Et le reste, c'est Sébastien Farsi qui raconte.
Le soleil vient de se coucher. Une cinquantaine de croyants sortent de la mosquée de Nizamuddin dans le sud de New Delhi et s'arrêtent dans la cour du mausolée de Nizamuddin Aulia. Des musiciens s'assoient à même le sol devant le monument et entonnent leur première strophe. C'est le début du Qawwali. Les croyants ou amateurs de musique comme le jeune Hisham se placent à leur côté.
Le sentiment de paix que nous trouvons ici est unique. Avec mon ami, quand nous sommes stressés, nous venons ici pour écouter le Qawwali. C'est une musique de dévotion et d'amour. L'amour mystique, pas physique.
Ils sont une dizaine de musiciens en habits traditionnels. Ils jouent de l'harmonium, des percussions et reprennent avec ferveur ces poèmes en ourdou ou en persan, composés pour beaucoup au Moyen-Âge. Des textes qui parlent avec une grande poésie de leur amour pour les saints et les dieux soufis. À chaque fin de strophe, leurs bras s'élancent vers ce magnifique mausolée éclairé, comme s'ils parlaient à leur poète vénéré, alors que le public lui dépose des billets devant les instruments. Le moment est magique. Nous sommes transportés dans l'Inde médiévale. Ajmal Nizami est l'un des responsables de ce lieu et il est membre de la branche soufie de l'islam, répandue de la Turquie à l'Asie du Sud et connu entre autres pour ses chants et ses danses mystiques.
Une personne normale prie pour elle-même seulement, mais les soufis, eux, prient et agissent pour les autres aussi, pour aider la communauté locale. Ce sanctuaire de Nizamuddin sert donc de refuge. Nous nourrissons les corps et offrons à manger aux plus pauvres, mais nous nourrissons aussi les âmes à travers le kavali.
Le kavali est comme un guide qui aide à comprendre la complexité du sentiment amoureux que peut affronter un dévot dans sa quête de pureté. C'est ce que décrit par exemple ce magnifique poème chanté par le maestro Nusrat Fateh Ali Khan. « L'amour se loge dans le cœur, dit-il, non sur le bout des lèvres. Accepte les blessures car elles te font vivre. » Dhruv Sangari est un musicien kaval de Nizamuddin.
Le kaval est comme un ingénieur, la technologie du cœur. Dieu est le créateur de l'amour et il peut donc être trouvé à travers l'amour. Le Saint-Coran dit ainsi que la récitation du nom d'Allah est un baume pour le cœur.
Le kavali est également un art qui transmet les connaissances spirituelles des siècles passés à travers des contes ou des fables. Or, ces histoires sont à l'image du sous-continent indien, un mélange des cultures et des religions qui y vivent. Le kavali est donc par essence syncrétique. Dhruv Sangari.
Only Muslims do not fall in love with Prophet Muhammad. Anybody can.
Il n'y a pas que les musulmans qui peuvent tomber amoureux du prophète Mahomet, que la paix soit sur lui. Tout le monde peut apprécier sa bonté et sa générosité. De la même manière, il n'y a pas que les hindous qui tombent amoureux du dieu Rama et il est célébré dans l'Indonésie musulmane. Vous pouvez accepter la sagesse, quelle que soit son origine.
Ce mélange se ressent dans le public venu au mausolée de Nizamuddin, qui comprend des hindous, des sikhs ou des chrétiens et qui écoutent tous cette musique sacrée musulmane. Ananda Krishnan est un hindou originaire du Kerala.
Je suis communiste et non religieux, mais cette musique m'envoûte. Je viens d'ici avec mon ami qui est musulman et il n'y a pas de différence, nous sommes tous les deux touchés de la même manière. Car cette musique est spirituelle et elle parle à tout le monde. Ce mélange, c'est la beauté de l'Inde.
Cette beauté disparaît malheureusement sous les coups de la politique actuelle du gouvernement nationaliste hindou qui divise hindous et musulmans et présente ces derniers comme un danger pour l'avenir de l'Inde.
Sébastien Farcy pour le reportage. Merci beaucoup. Le bruit du monde, la suite, c'est toute l'actualité internationale passée sous les radars. Et c'est Sébastien Logénie. Nous sommes dans les rizières du Cambodge. Sébastien, un pays ravagé par la guerre, qui vient de perdre un héros national.
Un héros qui répond au nom de Magawa. Et figurez-vous que Magawa n'est autre qu'un rat, mais un rat célèbre, décoré pour sa bravoure. Il était détecteur de mines antipersonnelles au Cambodge. Et grâce à lui, des dizaines de mines ont pu être désamorcées, des dizaines de vies sauvées. Magawa est mort hier, donc, avec après 5 ans de bons et loyaux services. Alors, comme pour beaucoup d'entre nous, Fabienne, vous découvrez sans doute l'existence de ces rats détecteurs de mines, des rongeurs géants venus de Tanzanie dont l'odorat est extraordinaire et qui sont entraînés depuis des années par une ONG belge pour détecter l'explosif comme le TNT, une technique beaucoup plus rapide que les détecteurs de métaux. Magawa, du haut de ses 70 cm, pouvait ainsi passer au peigne fin l'équivalent d'un terrain de tennis en 30 minutes alors qu'il faudrait 4 jours à un humain pour faire la même chose. Dans sa vie, Magawa a participé à nettoyer l'équivalent de 40 terrains de foot dans la campagne cambodgienne, dévasté par les conflits depuis l'arrivée des Khmers rouges dans les années 70. Plus de 4 millions de mines infestent le pays. Cet expert cambodgien explique par exemple que les gens ont très peur des mines, peur pour eux, peur pour leurs enfants qui ne peuvent pas courir ni jouer dans la campagne. Même chose pour les agriculteurs qui plantent du riz, mais ils n'ont pas le choix. La plupart des victimes sont des hommes qui sont souvent les seuls dans la famille à ramener de la nourriture et de l'argent. Au total, 20 000 personnes sont mortes au Cambodge à cause des mines antipersonnelles ces 30 dernières années.
En Égypte, Sébastien, une vidéo d'une femme en train de danser vire à la polémique nationale.
C'est une vidéo qui est devenue virale. En quelques jours, on y voit une enseignante faire la danse du ventre avec d'autres collègues masculins de son école sur un bateau lors d'une petite fête professionnelle. Je vous décris la scène. L'enseignante est voilée, habillée de la tête aux pieds avec une tunique à manches longues. Elle a juste le malheur de danser à l'orientale en bougeant légèrement ses hanches face à d'autres hommes qui dansent eux aussi. Scandale chez les conservateurs religieux, chez qui cette danse créée sous les pharaons pour favoriser la fertilité de la terre est aujourd'hui très mal vue. Déchaînement sur les réseaux sociaux, au point que l'enseignante a été licenciée et que son mari a demandé le divorce. Toute ma carrière de professeur d'arabe ruinée pour 10 minutes passées sur un bateau du Nil, lance-t-elle. Une chasse aux sorcières dénoncée par les associations de défense des droits des femmes. Une directrice d'école s'est elle aussi photographiée en train de danser. Les autorités ont finalement réintégré l'enseignante dans une autre école qui entend maintenant porter plainte pour atteinte à la vie privée.
Et sinon, on termine en Grèce, Sébastien, qui vient de récupérer un morceau du Parthénon d'Athènes.
C'est un fragment de la frise du Parthénon, un pied d'Artémis, la déesse de la nature sauvage et de la chasse. Un morceau qui a été restitué en début de semaine par un musée italien à la ministre de la Culture grecque. Un prêt pour 8 ans de l'Italie à la Grèce, donc, mais qui pourrait être renouvelé. L'histoire de ce petit bout de frise remonte au 19e siècle. Il était détenu par l'ancien consul d'Angleterre en Sicile, racheté ensuite par un musée de Palerme. Bref, un prêt très politique. L'Italie fait un geste en fait que d'autres pays se refusent à faire depuis des décennies, notamment l'Angleterre. C'est elle qui détient depuis le 19e siècle la moitié des frises en marbre du Parthénon, détachées, arrachées à l'époque par un lord britannique aux grandes dames des archéologues grecs.
C'est une façon brutale avec laquelle il a opéré sur le monument, parce qu'il a détruit en enlevant la sculpture, plus que l'enlèvement de la sculpture, la manière avec laquelle il a fait ça.
Vous rêvez, vous, de revoir cette frise un jour, ici ?
Tous les Grecs.
Les autorités britanniques, elles soutiennent que les frises avaient été emportées à l'époque avec l'autorisation des dirigeants ottomans qui occupaient la Grèce. Le British Museum lui refuse toujours de rendre les marbres, malgré un sondage des Anglais qui sont 60% à considérer qu'ils appartiennent bien à la Grèce.
Rends la frise. Pendant que vous parliez, Sébastien, j'ai été voir quand même sur Internet le gros rat détecteur de mines.
Il est mignon comme tout.
La cause est belle, mais la bête est moche.
Oh
quand
non,
même.
Il est
allez,
trop mignon.
Sébastien, merci
d'accord.
Beaucoup. Voici Toc 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 qui signe cette version de 50 Ways to Leave Your Lover.
The problem is all inside your head, he said to me. The answer is easy if you take it logically. I'd like to help you in your struggle to be free. There must be 50 ways to leave your lover. He said it's really not my habit to intrude. Furthermore, I hope my meaning won't be lost or misconstrued. But I repeat myself, at the risk of being crude, there must be 50 ways to leave your lover. 50 ways to leave your lover. Just slip out the back, Jack. Make a new plan, Stan. Don't need to be coy, Roy. Just get yourself free. Hop on the bus, Gus. You don't need to discuss much. Just drop off the key, Lee, and get yourself free. Slip out the back, Jack. Make a new plan, Stan. You don't need to be coy, Roy. Just listen to me. Hop on the bus, Gus. You don't need to discuss much. Just drop off the key, Lee, and get yourself free. He said it grieves me so to see you in such pain. I wish there was something I could do to make you smile again. I said, I appreciate that. And would you please explain about the 50 ways? He said, why don't we both just sleep on it tonight? And I believe in the morning you begin to see the light. Then he kissed me, and I realized he probably was right. There must be 50 ways to leave your lover.
Toc 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 avec la reprise de 50 ways to leave your lover sur France Inter. Allez, le mercredi, c'est cinéma et c'est Alexis de Meyer.
France Inter. Un jour dans le monde.
We start.
Alex Si, voici un extrait du documentaire Little Palestine qui est à l'affiche ce mercredi. Little Palestine, c'est le nom de cet immense camp de réfugiés de Yarmouk qui est dans la banlieue de Damas et qui a été démantelé en 2018. 5 ans plus tôt, l'armée syrienne avait commencé à assiéger ce camp-là puisqu'on soupçonnait qu'il y avait à l'intérieur des rebelles. Le film dont vous parlez ce soir, c'est donc la vie quotidienne pendant ce long siège.
Oui Fabienne, ce documentaire signé Abdallah Al-Ratib est un huis clos dans ce quartier délabré avec ses rues éventrées et ses boutiques aux rideaux toujours baissés. Les habitants manquent d'eau, d'électricité, de médicaments et de nourriture. Rarement un film aura décrit de manière aussi concrète la situation de famine. On y voit par exemple les réfugiés palestiniens inventer des recettes de soupe de cactus et de mauvaises herbes. Le réalisateur se met lui-même en scène dans le film, ainsi que sa mère, une infirmière qui utilise le système D pour soigner les plus affaiblis et qui leur distribue des bonbons et des ballons de baudruche. Les plus affaiblis, ce sont les très jeunes et les très vieux, deux générations qui intéressent ici tout particulièrement le réalisateur Abdallah Al-Ratib.
Effectivement, ce sont mes deux lignes narratives. Les personnes âgées symbolisent la mémoire et le passé du camp de Yarmouk, et les enfants représentent bien sûr le futur. Et le lien entre ces deux générations, c'est ma mère et moi qui sommes dans l'urgence du présent. À travers ce film, j'ai voulu raconter le siège avec différents points de vue, avec différents degrés d'espérance et de désillusion. Ce que je souhaitais, c'était documenter la vie quotidienne, car par le passé, il y a eu beaucoup de massacres dans les camps palestiniens, mais peu de caméras pour en témoigner. D'ailleurs, je ne savais pas du tout ce que j'allais faire de mes images.
Est-ce qu'on entend là, c'est une manifestation donc dans le camp de Yarmouk, Alexis, encerclé par les forces de Bachar el-Assad, des habitants qui se sentent complètement abandonnés et qui réclament l'aide de l'ONU.
Oui, car la plupart des enfants et des vieillards souffrent de malnutrition. La famine fera d'ailleurs 181 victimes pendant le siège de Yarmouk. Little Palestine est un document précieux, mais c'est aussi une œuvre artistique impressionnante, composée de plans d'une grande puissance formelle. Abdallah Al-Ratib est pourtant un total autodidacte. C'est en débutant le tournage qu'il s'est pour la première fois de sa vie servi d'une caméra. Avant d'être bloqué dans ce camp de Yarmouk, il étudiait la sociologie à l'université de Damas.
Toutes ces images ont été tournées de manière très spontanée. Je n'avais pas de méthode, je n'avais pas de plan, car à l'époque je ne maîtrisais pas du tout la grammaire cinématographique. J'ai filmé à l'instinct, par sensibilité personnelle, face à ce que j'observais. Je me disais simplement, tiens, je vais immortaliser cette scène car elle me semble intéressante. C'est bien plus tard, une fois sorti du camp de Yarmouk, que j'ai pris conscience que certains de mes plans étaient plus cinématographiques que d'autres. Cette expérience me donne envie de faire d'autres films, soit en utilisant toutes les archives que j'ai encore en stock sont en tournant de nouvelles images.
Un pianiste et une chorale qui improvisent un concert au milieu des décombres et alors que des bombardements se font entendre au loin. C'est l'une des séquences les plus fortes de ce film nécessaire, film qui a bien failli ne jamais voir le jour. Pour éviter de se faire confisquer ces images, Abdallah Al-Ratib avait confié des disques durs à plusieurs de ses proches, espérant que l'un d'entre eux au moins parvienne à sortir du camp vivant et sans être fouillé. Abdallah Al-Ratib, lui, vient d'obtenir l'asile en Allemagne, tout comme sa mère.
Allez, ça s'appelle Little Palestine, signé donc Abdallah Al-Ratib. C'est en salle ce mercredi et merci beaucoup Alexis de Meyer.
Fabienne Synthès, le 18-20.
Le monde d'après de Jean-Marc Four. Jean-Marc, le sommet OTAN-Russie aujourd'hui à Bruxelles a tourné comme on pouvait s'y attendre au dialogue de sourds. Aucune avancée en particulier sur le sujet de l'Ukraine. Vu d'Occident, la menace de Moscou est élevée, vu le nombre de troupes russes massées à la frontière ukrainienne. Mais vous allez nous la jouer monde à l'envers. Ce soir, vous voulez chercher à comprendre plutôt la position russe et dites-vous, elle s'explique.
Oui, je vais essayer d'entrer dans la tête de Vladimir Poutine. Pas facile, mais ça se tente. Premier point, vu de chez moi, la menace, c'est vous, les Occidentaux, pas l'inverse. Depuis la fin des années 90, l'OTAN n'a cessé de s'étendre et de se rapprocher de mes frontières. En un peu plus de 20 ans, 14 pays ont adhéré à votre alliance de défense. 14 pays qui étaient tous auparavant dans mon aire d'influence. La Hongrie, la Pologne, la République tchèque dès 1999, puis la Roumanie, la Bulgarie, la Slovaquie, la Slovénie et les trois pays baltes en 2004. Et enfin plus récemment, 4 pays des Balkans, l'Albanie, la Croatie, le Monténégro et la Macédoine du Nord. Ça fait beaucoup. L'OTAN peut bien appeler ça poliment présence avancée renforcée. Pour moi, Vladimir, ça porte un autre nom, menace croissante. En plus, voici que deux pays nordiques s'y mettent à leur tour et évoquent l'hypothèse de rejoindre rejoindre l'Alliance occidentale, la Suède et surtout la Finlande. 1300 km de frontière avec mon pays, la Russie, menace, je vous dis. J'ai donc des lignes rouges pour ma sécurité. Pas question de voir l'OTAN en Bosnie, en Géorgie, dans le Caucase et surtout en Ukraine. Parce que pour moi, l'Ukraine, c'est la zone tampon avec l'Ouest. Mon bouclier protecteur sur plus de 1300 km de largeur, là aussi. Hors de question de voir des troupes occidentales s'y installer.
Oui, mais enfin bon, cher monsieur Poutine, ce qui est quand même super bizarre. On a surtout l'impression que vous voulez revenir à l'Empire soviétique.
Oui, et alors ? Je l'ai déjà dit, le démantèlement de l'URSS a été la pire catastrophe géopolitique de la deuxième moitié du XXe siècle. Depuis 1991, l'Occident, arrogant, n'a cessé de nous humilier en avançant ses pions, en profitant de nos faiblesses économiques, en nous regardant comme un pays vaincu, rétrogradé au rang de puissance régionale. Je l'assume très bien, il est temps de remonter le temps, d'en revenir aux frontières de 1997, quand aucun pays de l'Est n'avait rejoint l'OTAN. Mon ministre, Sergueï Ryabkov, l'a dit. L'Est de l'Europe, la Biélorussie, l'Ukraine en particulier, c'est notre aire d'influence, comme le Caucase, la Géorgie, l'Arménie, l'Azerbaïdjan, et comme une partie de l'Asie centrale. C'est pour ça que j'ai envoyé des troupes au Kazakhstan la semaine dernière. Donc oui, je veux une nouvelle version des accords de Yalta, ceux qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale. D'ailleurs, ici à Moscou, on a surnommé mes propositions à l'OTAN de Yalta 2.0. J'adore. J'ai aussi entendu un diplomate européen affirmer que mon logiciel est uniquement bilatéral, pas question d'un monde multilatéral. Eh bien oui, j'assume aussi, et c'est pour ça que je veux parler uniquement à Joe Biden. Le multilatéral, je n'y crois pas, et le pire, ce serait un monde bilatéral Chine-États-Unis, dont je serais exclu. Je veux siéger à la table des maîtres du monde, sinon rien.
Donc, monsieur Poutine, vous reconnaissez que vous êtes en train de jouer un coup politique, donc un pari, un coup de poker.
Mais là aussi, et alors, c'est ça la politique, hein. Il n'y a pas de mal à ça, les autres font la même chose. J'ai un coup à jouer en faisant monter les enchères sur l'Ukraine, et c'est pour ça que j'ai massé plus de 100 000 hommes à ses frontières. Un coup à jouer pour des tas de raisons. Les États-Unis donnent désormais la priorité à l'Asie, donc c'est le moment pour moi d'avancer mes pions en Europe. L'Union européenne m'enquiquine sur le plan économique, mais n'arrive pas à parler d'une seule voix sur le plan politique. Donc avec l'Ukraine, je peux les enquiquiner en retour. Et puis surtout, en montrant mes muscles à ma frontière avec l'Europe, j'envoie un message à l'intérieur de la Russie et aussi dans mes autres régions d'influence, le Caucase, l'Asie centrale, je vous le disais. Hors de question qu'il y ait des effets dominos, silence dans les rangs. Donc voilà, ma position est cohérente. D'ailleurs, je vais vous dire, symboliquement, moi, Vladimir, j'ai déjà remporté la première manche. Dans le seul fait qu'hier et avant-hier, les États-Unis aient accepté un tête-à-tête exclusif avec nous pour parler de l'Europe sans les Européens. La discussion n'a pas avancé d'un pouce, mais peu importe, j'ai décroché le symbole recherché. Bon, le seul truc, c'est que j'ai placé la barre assez haut dans mes demandes à l'OTAN, donc s'il refuse tout en bloc, va falloir que je fasse quelque chose. Pas question d'être à nouveau humilié.
Voilà, Jean-Vladimir Fourpoutine, merci beaucoup. C'était Le Monde d'après, vous reveniez demain quand même dans votre peau, s'il vous plaît. Dans un instant, pour nous, c'est la deuxième heure du 18-20, avec le journal d'Hélène Filly, et puis le téléphone sonne. À tout de suite.